to the ground. Don't run a horse around. Don't hit them to the ground. Don't run a horse around. Don't hit them to the ground. Don't run a horse around. Don't hit on to the ground. Let's find a better place. Well, and quit this whole time race. Through lines and wire. Well, I'm fast, but you are quick.
Don't run a horse around. Don't run a horse around. Don't.
Il est tout juste 4 heures en temps universel, 6 heures à Madrid et à Bordeaux. Le retour du journal Nemo en piste, bonjour.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Avec cette journée cruciale pour ceux qui combattent les feux dans le sud-ouest de la France et en Espagne.
Oui, parce que s'invitent ce mardi des chaleurs de plus en plus fortes, quatrième épisode caniculaire et des pics de température dès demain. L'heure est donc à l'urgence et à l'inquiétude. On évoque celle des assureurs dans ce journal. Étaient-ils assez préparés à ces incendies? Peut-être pas, pourtant ils étaient prévenus. Donald Trump reçoit à la Maison-Blanche ce mardi Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, on y reviendra, mais aussi Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui vient une nouvelle fois tenter d'obtenir un soutien plus important de la part de son homologue américain dans la guerre face à la Russie. L'actualité du continent africain également, autour du Tchad, de se retirer de la Cour pénale internationale, un départ qui sera effectif dans un an. Et puis la visite au Mali du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, c'est dans 10 minutes. La course contre la montre se poursuit dans le sud de l'Europe face aux incendies, particulièrement aux portes de Bordeaux dans le sud-ouest de la France et de Madrid, la capitale espagnole. En France, déjà une année record en termes d'hectares partis en fumée, pas moins de 116 000 à l'heure où l'on parle. Des feux d'une ampleur inédite, disent les autorités françaises et espagnoles, mais qui le seront de moins en moins en raison du dérèglement climatique provoqué par l'activité humaine et qui favorise évidemment ces situations. Ce matin, on évoque l'inquiétude des assureurs. Nathanaël Vitran, la situation était pourtant prévisible.
2023. À la demande du gouvernement, l'ancien assureur Thierry Langrenet publie un rapport sur l'adaptation du système assurantiel français aux risques climatiques. Il n'est absolument pas surpris par la situation actuelle.
Pas du tout, malheureusement, parce que le GIEC a depuis longtemps alerté. sur l'augmentation de fréquence et d'intensité de ces événements.
Et pourtant, ce rapport soulignait déjà la déconnexion des modèles de prédiction des assureurs. Alors que la France venait de traverser en 2022 un des pires épisodes de sécheresse de son histoire, les plus pessimistes prévoyaient qu'on ne revivrait pas pareil événement avant 15 ans. 100 ans pour les plus optimistes. Il aura suffi de 4 ans à peine.
Ça montre la nécessité d'être particulièrement modeste quand on est actuaire en assurance sur les sujets climatiques.
Pour résister, les assureurs doivent donc diversifier leurs risques.
Heureusement, les incendies que l'on vit aujourd'hui n'arrivent pas encore dans le département du Nord, mais qui ont par contre d'autres périls, les inondations, le retrait gonflement des argiles, etc. Donc, par exemple, pendant les épisodes des années chaudes, les inondations peuvent être moins nombreuses, et pendant les années très pluvieuses, avec plus d'inondations, les sécheresses sont moins nombreuses.
Voilà pour l'adaptation, mais Thierry Langrenet insiste. Les pouvoirs publics doivent encourager les entreprises, les assureurs et les particuliers à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre.
Nathanaël Vitran est dans cette lutte acharnée face aux flammes. Une nouvelle donnée non négligeable s'invite, les chaleurs extrêmes. Un quatrième épisode caniculaire est attendu à partir d'aujourd'hui en France, avec des pics de température pouvant atteindre les 40 degrés par endroit, notamment dans le sud-ouest, et des vents moins violents. Certes, mais plus sec, dit Météo France. L'une des conséquences de ces conditions, c'est la sécheresse, ce qui rend mauvaise la qualité des rivières du pays. Illustration en Haute-Vienne, dans l'Ouest, où 3 cours d'eau sur 10 seulement sont considérés en bon état par l'agence de l'eau. Des flux faibles, de la pollution et donc une mise en danger de la biodiversité. Et l'une des principales causes de cette qualité dégradée, eh bien, c'est l'agriculture, comme l'a constaté Nicolas Pichon, Levenbruck. Reportage.
On est au bord de la Briance, une rivière entourée de champs où pâturent des bovins qui s'abreuvent au cours d'eau. Rien de plus naturel. Et pourtant, ça a des conséquences graves, explique Anna Burguet du syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne.
Pour voir les impacts de l'érosion, le piétinement, on voit que le volume de terre n'est plus là et est parti dans la rivière, en fait.
Un problème, notamment pour l'espèce phare de nos cours d'eau, qui est la truite fario, qui se retrouve avec les frayères, c'est les zones où elle se reproduit, qui sont colmatées.
Ce piétinement participe aussi indirectement au réchauffement des rivières et donc à leur disparition progressive, explique la technicienne de l'environnement. Elle nous emmène de l'autre côté du cours d'eau, dans les champs de Lionel Lebrun, éleveur bio.
Ouais, de ce côté, il y a des abreuvoirs qui sont aménagés. On peut en voir un juste un petit peu plus loin. Et ce qui permet de clôturer la berge et que les bêtes ne descendent pas dans la rivière.
Les abreuvoirs sont reliés à une source souterraine. Même s'il n'y était pas obligé, l'éleveur a décidé de financer lui-même cet aménagement.
On n'est pas propriétaire de tout et tout le monde a besoin de l'eau. Donc on aime bien laisser les choses assez propres pour que tout le monde puisse en profiter. Oui.
Il ne le savait pas au moment de faire ses installations, mais l'agence de l'eau peut les subventionner. Chaque année, l'institution dépense 1,2 milliard d'euros pour lutter contre la pollution de l'eau. Nicolas Pichon, Levenbruck, Saint-Vite-sur-Briance, RFI.
Et pour être tout à fait complet sur ce chapitre climat et incendie, de nombreux feux également dans le nord et le centre du Portugal, où plus d'un millier de pompiers mobilisés. Des feux toujours en Algérie et en Tunisie. Et puis au Canada, près de 900 feux actifs sur le territoire. Depuis 2012, 3 500 000 hectares de forêt ont été brûlés selon le système canadien d'information sur les feux et la société de protection des forêts contre le feu. Le reste de l'actualité internationale est la visite de Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche, où il doit retrouver Donald Trump. Rencontre sur fond de tension ces derniers temps entre le Premier ministre israélien et le président américain. Juste avant son départ, Benjamin Netanyahou avait donné son feu vert à l'entrée dans la bande de Gaza d'une force internationale de stabilisation. Donald Trump, qui sur le dossier iranien a assuré qu'il existait de bonnes chances que les discussions avec Téhéran aboutissent. Les autorités iraniennes qui démentent pourtant l'existence de ces négociations. Si cela échoue, prévient le président américain, on reviendra, je le cite, à ce qu'on faisait il y a 2 jours, comprenez bombarder l'Iran. Lui qui a balayé les inquiétudes sur une éventuelle pénurie de munitions américaines pour frapper le territoire de la République islamique. Il en reste beaucoup, dit-il, ajoutant « J'aimerais en avoir plus, mais on en a tellement donné à l'Ukraine ». Fin de citation. Une phrase qui n'est pas passée inaperçue à quelques heures d'une autre rencontre à la Maison-Blanche, celle du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui devrait tenter une nouvelle fois de gagner le soutien de son homologue face à la Russie. C'est d'ailleurs en marge de l'hommage rendu au sénateur Lindsey Graham que se tient cette rencontre. Lindsey Graham, fervent défenseur de la cause ukrainienne, est décédé le 11 juillet dernier à l'âge de 71 ans. Visite qui intervient également au moment où le revirement d'une influenceuse MAGA sur l'Ukraine pourrait contribuer à faire évoluer les opinions de certains. Laura Loomer, c'est son nom. Elle a en effet totalement changé sa position sur Kiev et est loin d'être la seule chez les partisans du président. Correspondance depuis New York, signée Gwendal Lavina.
Pendant des années, l'américaine de 33 ans qui se présente comme journaliste reprend les éléments de langage du Kremlin et qualifie l'armée ukrainienne de bande de nazis. Puis c'est une épiphanie. Il y a quelques jours, Laura Loomer poste des vidéos où elle se dit sous le choc de voir à quel point elle a gobé les mensonges de la propagande russe. L'influenceuse complotiste s'exprime depuis l'Ukraine et diffuse aussi une interview du président Volodymyr Zelensky. Il était important qu'elle voie les choses telles qu'elles sont et avec ses propres yeux, salue l'entourage du dirigeant. Ce revirement et celui récent d'un autre podcasteur, Tim Pool, sont loin d'être anecdotiques, tant ces figures peuvent faire et défaire l'opinion de la base MAGA de Donald Trump. Le président américain a toujours été dur avec l'Ukraine et la mort du sénateur Lindsey Graham, fervent défenseur de Kiev, faisait craindre le pire à Zelensky. Mais il pourrait bien avoir trouvé un soutien de taille en Loomer qui insiste désormais pour faire voter la loi sur le renouvellement des sanctions contre Moscou. Interrogé sur l'évolution du mouvement MAGA sur l'Ukraine, Donald Trump botte en touche, je pense qu'ils soutiennent ce que je soutiens. Gwendal Lavina, New York, RFI.
Volodymyr Zelensky qui par ailleurs revient d'un voyage au Royaume-Uni où il a rencontré le nouveau Premier ministre Andy Burnham qui lui a promis de partager avec l'Ukraine une technologie de brouillage militaire destinée à déjouer les défenses aériennes russes. Pendant ce temps-là, les intrusions russes se poursuivent évidemment en Ukraine mais aussi plus récemment en Roumanie. Le ministère roumain des Affaires étrangères a convoqué hier lundi l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Vladimir Lipaïev, après une série d'incursions de drones dans l'espace aérien. Guillaume Bernès est à Bucarest pour RFI.
Après des incursions répétées de drones en Roumanie ce week-end, le ministère roumain des Affaires étrangères a ordonné lundi l'expulsion d'un membre de l'ambassade de Russie. Des fragments d'un drone ont été présentés à l'ambassadeur russe convoqué à Bucarest. Cette crise diplomatique intervient après 4 incursions de drones entre vendredi et lundi dans l'espace aérien de la Roumanie. Selon le parquet général roumain, le premier appareil abattu vendredi était un drone de type Shahed, un modèle utilisé par l'armée russe dans sa guerre contre l'Ukraine. Jamais la Roumanie n'avait connu autant d'incursions de drones en quelques jours depuis le début de la guerre. Ces violations se multiplient depuis que Moscou intensifie ses frappes contre les ports ukrainiens situés de l'autre côté du Danube. Selon le ministère roumain de la Défense, 34 drones russes ont franchi l'espace aérien du pays depuis le début du conflit, dont près de la moitié en 2026. Guillaume Bernès, Bucarest, RFI.
J'ajoute que le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé une nouvelle mise en scène propagandiste et précisé que l'expulsion sans fondement d'un diplomate russe ne restera pas sans réponse. Et il y a quelques minutes, le maire de la capitale russe, Moscou, a assuré que la région de la ville avait été visée par plus de 390 drones cette nuit. Et en bref, sachez que Vladimir Poutine, lors d'un entretien téléphonique avec le premier ministre arménien Nikol Pachinian, lui a demandé d'organiser un référendum sur l'ambition de son pays d'entrer dans l'Union européenne. Une question sur de nombreuses lèvres en Allemagne. Comment un homme de 21 ans, connu des services de police pour son idéologie islamiste, a pu préparer un attentat et passer à l'action aussi facilement? On parle là de l'attaque de samedi soir lors de la marche des fiertés à Berlin, dont le bilan est d'un mort et de 29 blessés. Tentative d'explication avec David Philippot à Berlin.
De la déchéance de la nationalité allemande à la multiplication des expulsions, les propositions pleuvent de la droite et de l'extrême droite pour afficher sa fermeté et durcir le droit pénal. La polémique se focalise sur le jugement du tribunal de Berlin de mai dernier, condamné à 1 an et 10 mois de détention pour préparation d'un attentat. Abdul Balut a finalement écopé du sursis en l'échange de la promesse d'avoir pris ses distances avec l'idéologie islamiste et de suivre un programme de déradicalisation. Le chancelier Merz s'est publiquement interrogé comment cet homme dangereux a pu en toute liberté se rapprocher de la marche des fiertés. Cette polémique se propage dans un contexte électoral. En septembre, des élections ont lieu dans trois Länder, à Berlin et dans deux régions de l'Est. Tous les experts s'attendent à ce que l'AFD, qui accuse et la justice et le gouvernement de laxisme, engrange les fruits. C'est d'ailleurs démontré dans une étude publiée par un professeur de l'université de Francfort. Après chaque attaque, et même celle commise par des membres d'extrême droite, la peur profite à l'AFD à l'élection suivante. Dans ces trois Länder, le parti est déjà très haut placé dans les sondages.
David Philippot, Berlin, RFI.
Un nouveau pays va se retirer de la Cour pénale internationale après les trois pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est au tour du Tchad d'annoncer une décision souveraine et irrévocable prise selon N'Djamena après un examen approfondi du fonctionnement de l'institution depuis sa création. Les autorités tchadiennes évoquent notamment une efficacité limitée et à géométrie variable et une action concentrée sur le continent africain. Et puis Bassirou Diomaye Faye attendu aujourd'hui à Bamako pour une visite de travail. Le président sénégalais s'y rend avec sa double casquette, chef de l'État bien sûr, mais aussi président en exercice de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il a rendez-vous avec son homologue malien Assimi Goïta quelques jours seulement après avoir lancé son propre parti politique. À Dakar, les précisions de Juliette Dubois.
C'est la deuxième visite du chef d'État sénégalais au Mali. Il s'y était rendu une première fois le 30 mai 2024, quelques semaines après son investiture, pour une première prise de contact avec le colonel Goïta et un plaidoyer en faveur du retour des pays de l'Alliance des États du Sahel au sein de la CEDEAO, l'organisation que le Mali, le Niger et le Burkina Faso avaient alors annoncé quitter. Son ex-allié et premier ministre Ousmane Sonko s'était lui aussi rendu à Bamako en août de la même année. Cette fois, selon une source à la présidence sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye se déplace avec une double casquette, celle de chef de l'État et celle de président en exercice de la CEDEAO, une fonction que lui ont confié ses pairs le 19 juillet dernier. C'est donc son tout premier déplacement en ce rôle régional. Les discussions avec Assimi Goïta devraient porter sur l'avenir des relations entre la CEDEAO et la Confédération des États du Sahel, un dossier mené depuis mars par le négociateur Lansana Kouyaté, sans qu'un accord n'ait pour l'instant été trouvé. Sur le plan économique, l'axe Bamako-Dakar reste l'une des principales voies d'approvisionnement du Mali, un corridor fragilisé depuis quelques mois par des attaques djihadistes contre des convois de marchandises qui avaient contraint les transporteurs sénégalais à suspendre temporairement leur rotation en mai dernier. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Il est 4h14 à Dakar. Merci d'être à l'écoute de Radio France Internationale. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le reportage international. En Turquie, où il devient de plus en plus difficile d'obtenir un précieux sésame pour l'espace Schengen, là où il est plutôt facile pour la plupart des Européens de voyager en Turquie. Plus d'un million de Turcs a fait la demande l'année dernière, mais les délais sont souvent interminables, les rendez-vous introuvables et les demandes en hausse, donc les refus plus fréquents. La presse locale va même jusqu'à parler de crise des visas. Reportage en Anandlauer.
Sur un boulevard d'Ankara, un bâtiment vitré dont Mehmet Khan sort tout sourire. Il brandit son passeport, un visa pour la Lituanie fraîchement collé à l'intérieur. Cela n'a pas été simple. En deux ans, ce Turc dit avoir essuyé des refus de visa de cinq États européens.
Le motif, c'est toujours qu'il doutait que je rentre en Turquie après mon voyage. Là, je suis heureux, mais ça a tellement été long et fatigant que je n'en profite pas tellement. Enfin, ça y est, je l'ai.
La façade de verre abrite une entreprise chargée de recueillir les demandes pour 18.
Thank you. des principes actifs.
Tout est prêt techniquement pour que les émissions aient lieu. Les autorités peuvent évidemment décider ou bien de nous brouiller ou même de nous arrêter. Dans ces cas-là, nous ne faisons évidemment pas le poids, mais pour plein de raisons, il n'est pas sûr qu'ils le fassent.
Principes actifs.
Principes actifs.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principes actifs, le mix des cultures.
Standing on my guard, oh. I get money before, no be property, yo. Waiting for Danco, waiting for Uber and Okada. Omo, no be so, me, I want to live, oh. I got to get the dollar, okule. Plenty, plenty, moolah, jekule. Monkey, no desk, yo. Iki sumo.
Prochaines minutes, je veux qu'on m'appelle Jimmy Punchline. Oh,
c'est le retour de la légende de Jimmy. Même si je peux craquer à tout moment comme les jambes de Djibril. 2008, je lance le missile. Si t'écoutais pas de rap en 98, change de vinyle parce que je kick la prod à l'ancienne. Nique la mode, viens kicker comme quand je kickais pour démarrer ma voix. Cherche pas de message dans mes faces, dans mes métaphores. Je fais ça pour le plaisir parce que je trouve que je déchire. Oh, je représente le 7. J'écris des textes tirés par les cheveux comme ta meuf en levrette. Je crache le feu sur ta bande de traîtres. C'est le remake de Sodome et Gomorre, un holocauste sonore. Je suis trop d'or pour le grand public. De toute façon, je m'en branle des victoires de la musique. Je vise les hot d'or. Tous les jours, je me couche aux aurores. Et je pars au taf avec une gueule d'enterrement comme si j'étais croque-mort. Je suis les Beatles pour les jeunes ados. Je pourrais passer sur Sky même si mon single s'appelait Fun Radio. Je crache dans tes règles, ça fait ketchup mayo. Je te baisse sur un tas de boîtes, attrape une syphilis de derrière les fagots. Je distribue des CD dans l'hexagone pendant que tu distribues tes CV dans les McDo. Alors je comprends que tu voudrais faire un feat. Mais moi je voudrais un Big Mac et une grande frite. Et ça fait un pour mon estomac, deux pour ma bite. Passe Normandie 14 000, tu sais où j'habite. Jimmy, 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 viens t'ôter la vie. Je t'envoie en chimie, chimio, chimio, thérapie. Oui c'est gratuit, je suis bête et méchant. Si je dois mettre des gants, je t'arrache la jugulaire avec les dents. Et quand on fait la fête, c'est tes parents, ça part en tapage nocturne. On fait tourner le cul de la vieille alors que personne fume. Laisse-moi prendre ma respiration, je voudrais être sponsor MSN. Tout le monde prend mes citations, trouve-moi en pleine méditation. Dans un débit de boisson, ma gueule de bois ferait passer Pinocchio pour un vrai petit garçon. J'écris des tubes à l'encre de banane. Je t'enfile des trucs via l'encre de ta femme. T'arrives à rapper super vite, pas mal. Mais si t'as du flow et pas de parole, tu seras jamais plus fort que Scatman. T'aurais dû arrêter le rap au lieu d'arrêter l'école. T'aurais dû lâcher la musique au lieu de lâcher des coms. J'ai un truc énorme entre les jambes comme un contrebassiste. Aussi vrai que t'es pas français si t'as pas un oncle raciste. Je débarque comme un tsunami. Tu vois défiler, défiler, défiler toute ta vie. Ou de la lit, je te fais passer sous le baby. Ton équipe fait pitié comme un orphelinat en Roumanie.